Alors, Boker Tov à tout le monde, Shavua Tov les
Bonsoir.
Koulam. Et on revient donc dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et la semaine dernière, eh bien, on a parlé de cette période très très particulière, la période de l'après-destruction du Beth Amikdash. Et on est arrivé à la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire? Donc évidemment, puisqu'on est arrivé à la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui, on a dit que c'est ça qu'on faisait aujourd'hui, on va s'occuper de ce qui va devenir pour à peu près les 1000 prochaines années la référence en termes de Torah Takabala. Et je parle évidemment du Sefer HaZohar. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, on va faire un bond de 1000 ans en avant. Non, il y a quand même des enseignements de la Kabbalah qui vont se transmettre pendant ces 1000 ans. Et donc, on va voir de quoi il s'agit. Mais Sefer HaZohar devient le point de référence pendant les 1000 prochaines années. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est que Sefer HaZohar? Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Est-ce que véritablement il vient de Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il nous apprend? De quoi parle-t-il? Et pourquoi fait-il tellement référence? Alors, je vous propose de commencer tout de suite par la polémique. La polémique est « Non, mais n'importe quoi, c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar. » Voilà la polémique. D'où vient cette polémique? Eh bien, cette polémique, elle vient d'un truc très simple. Rabbi Shimon, c'est le deuxième siècle après l'ère chrétienne. Le Zohar est apparu au XIIIe siècle. C'est-à-dire que le Zohar est apparu 1000 ans après Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que ça veut dire, il est apparu? Ben, le livre Zohar a commencé à être dévoilé, à être, je vais dire, commercialisé, imprimé, tout ce que vous voulez, 1000 ans après. Par qui? Par un chacham en Italie, qui s'appelait Rabbi Moshe Di Leon. Rabbi Moshe Di Leon. Achav, que les choses soient claires, Rabbi Moshe Di Leon lui-même dit que ce n'est pas lui qui a écrit le Zohar, qu'il ne fait que révéler au monde le texte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais pour l'académie, pour les gens qui aiment faire des marlokotes, bien que Rabbi Moshe Di Leon lui-même a dit « c'est pas moi qui ai écrit », eh bien, ils vont te dire « non, c'est lui qui a écrit ». Il a dit ça par humilité, mais en fait, c'est lui qui a écrit. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont soit des académiciens, soit des personnes… Mais c'est lui qui, quoi? Ah, c'est lui qui l'a mis par écrit. Encore une fois, lui-même, Rabbi Moshe Di Leon, dit que ce n'est pas lui. Il y a Anita qui n'est pas contente. Il y a Rabbi Moshe Di Leon qui dit « c'est pas moi », mais dans l'académie, on dit « non, si, c'est lui ». Alors, et ils te disent qu'il a dit « c'est pas moi » juste pour soit faire preuve d'humilité, soit pour que tout le monde ne l'attaque pas. Parce que si tu dis « c'est moi qui ai écrit ce bouquin », alors tu vas t'attirer les foudres de tous ceux qui sont un petit peu anti-Kabbalah. Mais si tu dis « c'est pas moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai », Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aussi un des maîtres du Talmud. Donc, tu ne peux pas dire Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas un vrai. D'accord? Donc, voilà la machloket. Italie ou Espagne? Italie. En l'occurrence, Rabbi Moshe Di Leon, c'est Italie. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? Que les choses soient claires, c'est vrai que dans l'académie, on a toujours tendance à dire que si un juif il a écrit quelque chose, le postulat de départ, c'est que c'est faux. Ben oui, mais nous, on n'est pas dans l'académie. Rabbi Moshe Di Leon dit, c'est pas moi, j'ai pas de raison de remettre en cause ce qu'il a dit. Il dit, c'est pas moi. Et effectivement, dans la tradition juive, et particulièrement dans les Mekoubalim d'Espagne, qui vont arriver plus tard, le Harizal en tête, eh bien, ils vont authentifier le Sefer HaZohar comme étant le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai. La question qui reste, c'est, ok, c'est le livre de Rabbi Shimon. Mais alors, comment ça se fait qu'il s'est dévoilé que 1000 ans plus tard? Oui, tu fais comme ça, tu dis c'est Akadosh Baruch Hu, mais ça ne m'aide pas à comprendre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Eh bien ça, les amis, j'aimerais qu'on prenne une petite seconde, parce que c'est très important pour notre compréhension générale de l'étude de la Kabbalah. Akadosh Baruch Hu, des fois, il a des plans qui ne sont pas forcément les nôtres. Et des fois, Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux que ce contenu-là, il apparaisse à un moment T. Pourquoi ? Bien parce que peut-être que le monde Israël n'est pas encore prêt à recevoir ce contenu. Et s'ils se dévoilent maintenant, ils vont mal le comprendre et ça va faire plus de mal que de bien. Ou alors, Dieu, il peut dire aussi, ce contenu-là, je ne veux pas qu'il se dévoile du tout. Parce que, est-ce que vous avez déjà posé la question de tous les rabbins qu'on connaît qui ont écrit des bouquins? Si vous prenez un rabbin du XIIIe siècle, ok, Rabbeinu Asher, à Roche, qui est devenu un des textes de référence de la halakha, à son époque, il y en avait plein d'autres des rabbins qui ont écrit des trucs, mais que personne ne connaît, qui sont tombés dans l'oubli. Eh bien, ça fait partie de la Hashgachat Hashem, de la manière que Dieu a de se dévoiler, que certains textes vont être acceptés et vont se prolonger dans l'histoire, et d'autres non. C'est parce que nous n'étions pas prêts à recevoir avant. Alors j'ai dit, soit c'est ça, soit c'est Bichlal, que Dieu y pense que ce contenu-là, non. Prenez l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les rabbins et demi, ils sortent un bouquin. Même David Altar, il me presse pour que je termine mes corrections pour le livre que moi, je dois sortir. Exactement, exactement. Mais est-ce que le livre que je vais sortir, le livre du Rav Ben Arosh, le livre du Rav Cherki, est-ce qu'ils vont rester dans la postérité d'Israël comme étant Torah Israël? Ben, on verra. C'est trop tôt pour le dire, évidemment. Tu ne peux pas le juger à ce moment, au moment de la sortie. Mais on verra bien. Peut-être que finalement, dans 100 ans, Amisraël aura rejeté mon livre. Et donc, ben, je l'aurais écrit, mais personne, voilà, ce n'est pas resté dans. Ce n'est pas Torah Israël. Puisque la Shgacha n'aura pas voulu que ça continue. Et donc, il en va de même pour des textes qui se dévoilent à un moment T, alors qu'ils ont été écrits bien avant. Le meilleur exemple de cela, par exemple, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague a écrit énormément de livres, mais alors qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de citer le Maharal de Prague, pendant les 350 premières années après sa mort, personne n'étudiait le Maharal de Prague. Personne. Tout simplement, c'était une Torah qui n'était pas encore connue, ou du moins, ce n'était pas le moment. Et tout d'un coup, dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout le monde s'est mis à étudier le Maharal de Prague. C'était le moment. Il en va de même du Ramchal. Le Ramchal, pendant 300 ans, personne ne connaissait ses livres. Non seulement on ne connaissait pas, mais on les avait perdus. Et tout d'un coup, à la fin du XXe siècle, on redécouvre tous les livres du Ramchal, parce que c'est le moment d'étudier le Ramchal. Ok ? Il y a une histoire que le Rav Cherki m'a racontée, qu'il a vécue quand il avait 11 ans. Et d'ailleurs, c'est tout à fait en lien avec ce qu'il vous enseigne. Alors peut-être qu'il vous l'a raconté lui-même, je ne sais pas. Mais moi, je me rappelle quand il nous l'avait raconté. Il nous avait raconté que quand il a eu 11 ans, est arrivé chez eux, à la maison des Cherki, est arrivé Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, qui était très ami avec son père au Rav Cherki. Et bon, ils discutent et tout. Et à un moment donné, Manitou lui dit, tu sais, là, on vient de terminer avec mon groupe d'études tout un cycle de 6 ans d'études sur le Maharal de Prague. Et maintenant, on va commencer à étudier l'Ikuté Moharal. Et le Rav Cherki, du haut de ses 11 ans, lui demande, mais quel rapport, Rabbi Nachman de Breslav? Et Manitou répond, parce que jusqu'à présent, c'était Zmano Shel Maharal, et Arshav Igia Zman Shel Moharan. Jusqu'à maintenant, c'était le temps du Maharal, maintenant, l'heure est venue de Moharan, de Rabbi Nachman. C'est le moment. C'est le moment où sa Torah peut commencer à être comprise. Et pareil, Rabbi Nachman, c'est aussi 250 ans. Qui étudiait l'Ikuté Moharan avant? Qui étudie aujourd'hui? OK? Donc, dans la transmission de la Torah de manière générale et encore plus de Torah Tassod, il y a un moment où cette transmission peut être un bénéfice et il y a un moment où il vaut mieux pas que ça soit l'apanage de tous. D'accord ? Donc, ça nous explique que Sefer HaZohar, eh bien, pendant 1000 ans, on ne connaissait pas. Alors, évidemment, dans certains milieux, on connaissait, bien sûr, mais ça n'était pas un livre qui faisait référence en tant que tel. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin ? Eh bien, pour comprendre quel est le but de ce livre-là, j'aimerais qu'on commence par raconter l'une des histoires qui est mentionnée dans la Hagdama, dans l'introduction du Sefer HaZohar, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est une introduction, d'ailleurs c'est ça qui va aussi ne pas plaider en la faveur de ceux qui disent c'est Rabbi Shimon qui l'a écrit, puisque la Hagdama, l'introduction, raconte une histoire qui se passe après la mort de Rabbi Shimon. J'ai dit comment est-ce que Rabbi Shimon il a pu écrire si on te raconte une histoire qui se passe après sa mort. Alors, deux réponses à cela. D'abord, pratiquement tous les bouquins, il y a ça. C'est-à-dire le Talmud qui a été compilé par Ravina et Ravashi, il y a des enseignements de leurs élèves dans le Talmud, donc après eux. Il y a des Mishnayot qui viennent après Rabbi Yehuda Hanassi, pareil. Alors d'abord, tu peux dire que ça a continué un petit peu après. Ou alors tu peux tout simplement expliquer que, évidemment, que c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son Bet HaMidrash. C'est-à-dire qu'il est très possible que certaines parties, et particulièrement dans les introductions, eh bien, aient été rajoutées par ses élèves de la génération suivante. C'est-à-dire ça reste quand même l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette introduction ? Eh bien, elle nous raconte que Rabbi Chiya, qui est Talmid Talmido, okay, c'est l'élève, c'est la deuxième génération après Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, Rabbi Chiya a jeûné énormément et prié énormément pour avoir le mérite de revoir une fois Rabbi Shimon après sa mort. Il prie, ça ne marche pas. 40 jours et 40 nuits, ça ne marche pas. Alors, il recommence 40 jours, 40 nuits, comme si ces chiffres-là ne faisaient pas écho chez nous à quelque chose. Évidemment, on parle de nouveau recevoir la Torah. Et donc, finalement, ça marche. Enfin, pas tout de suite. On va lui permettre à Rabbi Chiya de monter dans les mondes supérieurs, mais pas encore de voir Rabbi Shimon. Et on lui permet de rentrer dans une yeshiva. Et là, il se rend compte que c'est une yeshiva très particulière, puisque c'est une yeshiva où sont réunis tous les rachés yeshivot, tous les dirigeants de yeshivot. Et on lui dit, il demande, c'est quoi cette yeshiva ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Il dit, cette yeshiva, c'est la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui est le préposé à ce qui se passe ici. On dit, ah bon, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'on étudie ici ? Eh bien, ici, on étudie quelque chose de très simple. Pour pouvoir rentrer dans la yeshiva, il y a un test. Et le test n'est pas combien de pages de Talmud tu connais, mais le test est-ce que tu es capable de transformer l'obscurité en lumière et l'amer en sucré ? Si tu es capable de transformer l'obscurité en lumière et ce qui est amer en sucré, alors tu peux rentrer. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Mais quelle est cette yeshiva ? Eh bien, c'est la yeshiva du Mashiach, qui est dirigée par Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est-à-dire que la Torah de Rabbi Shimon, c'est une Torah qui est là pour amener la lumière. Donc, vous comprenez pourquoi ce livre s'appelle Zohar, celui qui éclaire. C'est là pour amener la lumière. Ah, mais attention! Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas acceptés dans cette yeshiva. Et pourtant, ce sont tous des rachés yeshivot. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une Torah qui n'amène pas la lumière. Ah, vous connaissez, vous, des Torahs qu'ils ne sont pas là pour allumer la lumière? Ben oui, bien sûr qu'on en connaît tous. Une Torah qui me dit quoi faire, mais qui ne me rattache pas à Da'at Hashem, ben ça n'allume pas la lumière. Ça me dit juste quoi faire. En d'autres termes, c'est Torah qui est que niglé, qui me dit donc comment me comporter, ce qui est fondamental, mais qui est détaché de pourquoi on fait, comment est-ce que ça, ça va me rappeler, me rattacher et dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Eh ben, donc, tu n'as pas mis la lumière. Et ça reste marre. C'est marre de devoir faire toutes les mitzvot si tu ne comprends pas à quel point ça amène la lumière et la métikoute dans le monde. Donc, si tu n'es pas à ce niveau-là, eh ben, tu ne peux pas rentrer dans cette yeshiva-là. Et vous comprendrez pourquoi Rabbi Chiya, après cet épisode-là, nous est rapporté dans le Talmud à Yerushalmi qu'il se balade un soir avec Rabbi Shimon ben Chalafta. Ils se baladent tous les deux, petite ambiance, petite tioul nocturne. Mais attention, où est-ce qu'ils font ce tioul? Dans le nord, dans la vallée de Arbel. Bebikat Arbel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader là-bas. Bebikat Arbel, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à voir à part les vestiges d'une synagogue qui date plus ou moins de l'époque de Nitaïa Arbeli, peut-être. Donc, peut-être que c'était sa synagogue, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ils se baladaient là-bas. On ne sait pas trop de quoi ils ont parlé, mais le Talmud nous raconte que tout d'un coup est arrivé Ayelet HaShachar. Maintenant, c'est quoi Ayelet HaShachar? Alot HaShachar, c'est l'aurore. C'est-à-dire le moment où la lumière recommence. Pas le lever du soleil. Hein. Le moment où la lumière recommence. C'est-à-dire, Ayelet HaShachar, c'est l'instant où tu passes du moment le plus sombre de la nuit au début de la lumière. Et à ce moment-là, Rabbi Chiya dit « Kach Geulatan shel Israël ». C'est ça la Geoula du peuple juif. Au début, petit à petit, et finalement, le soleil va éclater. Rabbi Chiya, qui a fait un tour dans la yeshiva où on apprend à allumer la lumière, sait reconnaître le moment où le processus de la lumière recommence. Parce que c'est très compliqué quand tu vois le point le plus sombre de la nuit. Vous savez pourquoi Ayelet HaShachar, c'est le point le plus sombre de la nuit? Simplement parce que dans la nuit, il y a les étoiles. Donc, les étoiles, ça produit une certaine luminosité. Mais lorsqu'arrive le Ayelet HaShachar, le Alot HaShachar, en fait, ce qui se passe, astronomiquement parlant, c'est qu'on rentre dans le prisme du soleil. Et donc, il y a un tout petit temps où, en fait, comme le soleil commence à arriver, la lumière du soleil commence à arriver, ça enlève le scintillement des étoiles. Mais ce n'est pas encore le moment où la lumière. La Terre est rentrée dans la phase où on voit la lumière. Donc, il y a un tout petit instant où il fait nuit noire. Mais toi, tu peux te dire, attends, c'est le moment le pire de l'histoire. Ou alors, tu sais que juste après, c'est le siman que la lumière arrive. Et pour ça, il faut être Rabbi Chiya qui a été se balader là-haut. Et donc, tout le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai va être comment est-ce qu'on allume la lumière. Alors, de quoi est-il composé ce Sefer HaZohar? Alors, les amis, Sefer HaZohar est un livre énorme, d'abord, évidemment, et un livre qui est fait en beaucoup de parties différentes. D'abord, il est écrit en araméen. Et ça, c'est la première chose qui nous interpelle. Pourquoi est-il écrit en araméen? Eh bien, parce que c'est le livre qui nous accompagne, Bagalout. On va dire à la fin que c'est le livre qui nous permet de sortir de Galout, mais c'est le livre qui nous accompagne, Bagalout. Donc, on l'écrit avec la langue de la Galout, en araméen. Le Sefer HaZohar donc, est écrit en araméen et il va être réparti en plusieurs partie. Il va d'abord y avoir ce qu'on appelle à Hydrot. À Hydrot, Mazé Hydra. Hydra, c'est Moshav, qui sait. Donc, on veut dans le livre montrer plusieurs Kisaot, qui sait Malchut, qui sait Hachem, c'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Donc, il va y avoir une partie qui va s'appeler Hydra Rabba, le grand qui sait, Veidra Zuta, à qui sait Akatan, Mazé, à qui sait Agadol, à qui sait Akatan, de quoi est-ce qu'on parle dans ces deux parties différentes? Eh bien, on va parler tout simplement de ce qu'on va dévoiler plus tard dans Torah Ta'arizal, Torah Ta'aramchal, Yichud Elion ve Yichud Tarton. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on dévoile Akadosh Baruch Hu de manière idéale et comment est-ce qu'on le dévoile de manière concrète, Ba'olam Hazé. Donc, le grand siège et le petit siège, Hydra Rabba ve Hydra Zuta. Et puis, nous avons également dans ces hydrotes un autre texte qui s'appelle Hydra Deve Mishkana, le siège du Beit HaMishkan. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça parle de l'influence de la Shekhina dans le monde. Beit HaMishkan, pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de Vasuli Mikdash en l'occurrence, Veshachanti Betocha. Donc, l'importance et l'influence de la Shekhina dans le monde. Après cela, nous allons avoir, alors la Hydra de Beit HaMishkan, on va la trouver particulièrement, vous l'aurez compris, dans la paracha de Terouma, c'est là où on va nous parler de la construction du Mishkan. Hydra Rabba, on va en parler dans la paracha de Nassau, évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce que la paracha de Nassau nous parle de Korbanot Anessiim, ce qu'on appelle Korbanot Amilouim, qui sont l'idéal du lien avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, là-bas, on va parler également des Partsoufim. C'est quoi les Partsoufim? Eh bien, c'est les dévoilements divins dans ce monde par des intermédiaires. Alors que à Hydra Zuta, le petit siège, ça on va le retrouver dans la paracha de Hazinu, qui nous parle justement de cette chanson qui ramène le dévoilement dans l'histoire, dans ce qui va se passer dans ce monde. C'est-à-dire, une fois qu'on aura passé ces hydrotes, eh bien il y a une autre partie du Sefer HaZohar qui se met en place, qui s'appelle Ha'echalot. À Echalot de Rashbi. Echalot de Rashbi, eh bien, de manière générale, ça va parler du Gan Eden, du Geinam. On va retrouver ça dans la paracha de Yitro, car ce que je n'ai point dit, c'est que le Zohar est Mechoulak selon les parashiot. Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler des différences entre les deux Hydra plus complètement? Oui? Oui, 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 on va essayer. On va voir si on va y arriver. J'ai dit Hydra Rabba, c'est le dévoilement, on va dire, au niveau de l'idéal. Et Hydra Zuta, c'est dans ce monde. En fait, dans la Hydra Rabba, on va nous parler des Partsoufim, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire des dévoilements de Dieu avec des anthropomorphismes. On va nous parler là-bas de Dieu qui s'assoit sur un siège Malé Rachamim, comme on va pouvoir dévoiler dans le livre de Yeheskel. On va nous parler là-bas des Tikkunim Shel HaZaken, c'est-à-dire qu'on va essayer d'expliquer comment est-ce que de là-haut, on appréhende le monde d'en bas. Alors que dans la Hydra Zuta, ça va être l'inverse. On va essayer d'expliquer comment d'en bas on peut appréhender le monde d'en haut. Maintenant, si vous voulez plus en profondeur, il faut étudier Hydra Rabba ve Hydra Zuta. Nous ici, nous nous sommes cantonnés à une explication historique et très linéaire de la chose. Parce que sinon, après, David, il va dire que je ne fais pas mon boulot. Et donc, c'est un problème. Bekitsour, donc ça, c'est Hidrot. Ensuite, on a dit, nous avons Sifrut à Echalot de Rajbi. Alors, Echalot de Rajbi, de quoi est-ce qu'on parle? On a dit Gan Eden, Gehinom. On va le retrouver donc dans la paracha de Yitro. Et c'est une partie que Rajbi nous dit qu'il a reçue directement de Moshe Rabbein. C'est-à-dire, on va parler là-bas également de Israël Saba, de la Neshama Klalit, la Neshama primaire, primordiale du peuple juif. On va parler là-bas de Gilgulé Neshamot. On va parler là-bas de la relation entre le gouf et la Neshama. Tout ça, c'est dans ce qu'on appelle Echalot de Rajbi. Une fois, évidemment, on va parler également là-bas de Briata Olam, on va parler de Olam Abba. C'est là-bas qu'on va trouver tous les Mahamarim qui nous parlent de Olam Abba, Ba Zohar. OK ? Ensuite, on va parler d'une autre partie qui s'appelle Reya Me'emana. Reya Me'emana, c'est en hébreu Aroé Aneeman, c'est-à-dire mon cher Rabbeinu. C'est une partie qui se concentre sur mon cher Rabbeinu, sur sa personnalité, la façon dont il avait de guider le peuple juif et les ma'alot de mon cher Rabbeinu. C'est là-bas qu'on va parler des Nun Sha'are Bina, des différents degrés de compréhension que Dieu a donné dans le monde, que le monde ne peut atteindre que, n'a pu atteindre que 49 degrés, et que Moshe Rabbeinu Igia le Sha'ar HaMishim. C'est-à-dire, c'est de cela qu'on parle. Et il va y avoir une autre partie qui n'est pas petite, qui s'appelle Tikkuné HaZohar. Tikkuné HaZohar, eh bien, c'est tout simplement 70 drachot, 70 drachot pour expliquer comment est-ce qu'on explique le premier verset de la Torah. Et de là, évidemment, ça va partir dans tous les sens, bien sûr. D'accord ? Donc, de manière générale, voilà comment est construit le livre du Zohar. Pourquoi c'est ce livre-là qui amène et qui allume la lumière ? Makara. Comme je viens de le dire, le livre du Zohar, d'abord et avant tout, est construit sur le modèle des parachiotes. C'est assez rare d'avoir des bouquins qui suivent le fil des parachiotes. C'est-à-dire que quand on va aller plus tard dans le temps, Rabbi Yehuda Hanassi va créer un nouveau système de pagination, puisque lui, il va faire le chasse, Shisha Sidre Mishnah, on ne suit plus les parachiotes. Après, on va avoir le Rambam qui va faire son Yad Achazaka avec 14 parties. C'est une autre façon de séparer la Torah. Et puis, on va avoir le Shulchan Aruch qui va suivre le Baal HaTourim, 4 parties. Comment est-ce qu'on perçoit la Torah? Comment est-ce qu'on la subdivise pour l'expliquer? Eh bien, c'est aussi une façon de voir comment on perçoit le rôle de cette Torah. Quand vous prenez, par exemple, Rabbi Yehuda Hanassi, qui change l'ordre des parachiotes en Shisha Sidre Mishnah. Eh bien, le Shisha, c'est notre perception dans le monde. Et donc, ce qu'essaye de faire Rabbi Yehuda Hanassi, les 6, pourquoi c'est la perception dans le monde ? Eh bien, parce qu'il y a 6 kivunim. Pour déterminer une place dans l'espace, tu as besoin de 6 points. OK ? En haut, en bas, à droite, à gauche et en profondeur. Pour déterminer un point dans l'espace, tu as besoin de 6 points. Et donc, Rabbi Yehuda Hanassi va dire que notre réalité dans le monde, elle est sur 6 plans qui vont s'appeler Zman Nakat. Zman, Zraim, Moed, Nashim, Donc, Zraïm, c'est le rapport avec la terre. Moed, c'est le rapport avec le temps. Nashim, c'est le rapport avec l'éternité, les femmes qui donnent la vie. Nezikim, le rapport entre les hommes. Kodashim, le rapport avec la sainteté. Vetaharot, comment est-ce que nous, on met en pratique cette sainteté dans le monde. D'accord ? Donc, ça, c'est les six plans d'après Rabbi Houda Hanassi. Seulement, viendra à un moment donné le Rambam et dit, moi, je change. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Ayad, c'est comment est-ce que l'homme, il agit en fonction de tout ça, avec sa main. Et donc, je vais mettre en place 14 parties différentes qui sont les moyens que l'homme a d'agir dans ce monde. Et puis, le Shulchan Aruch ou le Baal HaTurim avant lui, eh bien, lui, il va dire non. Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il te dit non. Moi, je regarde le monde sur ces quatre dimensions. Quatre dimensions, c'est dans l'espace, mais si tu veux, dans la grandeur, le développement dans le monde. Et donc, on va te parler de la diffusion. Merci, la diffusion. Très beau mot. La diffusion dans le monde. Et donc, on va te parler de Arba Turim. On va te parler de Orach Chaim. C'est mon comportement au quotidien. On va te parler de Yoredea. Yoredea, c'est ce que tu dois enseigner, ce que tu dois savoir. Ensuite, on va te parler de Choshen Mishpat pour régler les problèmes entre les hommes. Et on va te parler de Even Haezer qui vont te parler des problèmes relationnels avec Dieu. Prolifération, oh là là, des mots fantastiques. Donc, vous voyez que la façon dont on va séparer la Torah pour l'expliquer a également une incidence sur la façon dont on a de voir notre réalité dans le monde. Donc, décider de faire un livre qui va suivre la paracha, la Torah, eh bien, ça veut dire qu'on on s'inscrit comme étant en continuité avec la névoie. Et en fait, c'est exactement de cela dont on parle. Sefer HaZohar va avoir pour rôle fondamental de poursuivre après la névoie. On l'a dit de nombreuses fois, la Kabbalah, c'est ce qui reste quand il n'y a plus de prophétie. Sauf que jusqu'à présent, depuis, on avait dit Shimon HaTzadik, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a à peu près 500 ans entre les deux, eh bien c'est Béalpé. C'est complètement Béalpé. Et Rabbi Shimon met en place une Torah qu'il va mettre par écrit, qui vient continuer le dévoilement de la Torah de la névoie. Alors, ce n'est pas de la névoie, mais c'est ce qui nous en rapproche le plus. Et donc, ben, ça nous donne une première piste. Parce que si tu veux sortir d'exil, eh bien, ce qui peut te permettre de sortir d'exil, c'est l'attachement à la névoie. Eh oui, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens, purement théoriques évidemment, qui n'existent pas, qui penseraient qu'on peut tout à fait vivre son judaïsme de manière authentique, avec des yeshivot, avec de la Torah, avec des rabounim, et tout ce que tu veux, à Mansi, ou à Paris, ou à Manchester, ou dans chaque autre grand foyer à Anvers, à Zurich, dans des grands foyers où il y a des grands talmidei chachumim avec des grandes barbes et des grandes yeshivot. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Des gens qui pensent, jamais, mais voilà, Zachary l'a dit, je n'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai eu l'honneur de recevoir dans ma souka Shabbat Rolamo et Sukkot, des gens qui m'ont soutenu qu'ils ne pouvaient pas aller étudier. Le garçon a 20 ans, il est à la yeshiva à Manchester, et il m'a dit il ne peut pas venir en Israël, parce que tu comprends, en Israël, il n'y a pas d'yeshivot. Alors, c'était un mec chapeau comme il faut, hein, pas de problème. Je ne vais pas demander d'aller à Merkaz Arab. Mais je lui ai dit quoi? Il n'y a pas d'yeshivot en Israël. Il me dit, ouais, non, il y a la yeshiva de Mir ou la yeshiva de Trévron, mais c'est un peu trop grand. des yeshivot à taille humaine, il n'y en a pas. D'accord. Et puis après, j'ai reçu une autre personne, pas dans ma souka, mais dans ma maison, ma tante, qui habite à New York. Et elle m'a parlé du rabbin de leur communauté. Et elle me l'a présenté comme étant le plus grand Talmid Chacham de l'histoire. Il connaît tout, c'est fantastique. Et voilà. Et ben oui, même aux États-Unis, c'est de ça que je te parle. New York, c'est aux États-Unis. Et j'ai dit la chose suivante. J'ai dit, mais attendez, il connaît tout, il sait tout, c'est génial, c'est fantastique, c'est un ordinateur. Voilà. Donc, il sait aussi qu'il doit habiter en Eretz Israël. Non, parce qu'on m'a bien dit qu'il avait beaucoup d'argent, Baruch HaShem. D'accord, donc il n'a pas de problème de parnassa. Donc, qu'est-ce qu'il fait à New York? C'est-à-dire qu'il y a, on a déjà entendu, un discours qui dirait qu'on peut tout à fait vivre son judaïsme authentiquement, pas forcément à Jérusalem, pas forcément en Israël. Eh bien, ça, cet avis-là, qui est évidemment erroné, cet avis-là provient d'une seule chose, l'arrêt de l'étude de la Kabbalah, l'arrêt de l'étude du Tanakh. L'arrêt de l'étude qui nous rattache à la prophétie. Pourquoi ? Eh bien, parce que toute la prophétie ne nous parle que de l'importance et de la centralité de la terre d'Israël. Donc, le Sefer HaZohar, à tel point d'ailleurs que d'où est-ce qu'on apprend que si tu habites en Chutz La'aretz, tu ressembles à un idolâtre. Alors, c'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Ketubot, à la page 110. Mais d'où on l'apprend, d'où le Talmud l'apprend? Ben, il l'apprend d'un verset du Tanakh, où David Ameler lui-même dit de lui que lorsqu'il a été obligé de s'enfuir de devant Avshalom et qu'il est obligé de rester chez Meler Pelishtim, eh bien, il dit « Je suis Oved Elohim Achirim ». Alors que c'est David. David, ce n'est pas un idolâtre. Mais il comprend qu'habiter ailleurs, « Zelo, shelo ya'alu kachoma ». Ah, donc tu dis « Tous ces rabbins qui habitent en Chutz La'aretz, ils restent en Chutz La'aretz parce que… » Ils ont vu l'argument des trois serments dans cette fameuse Gemara de Maseret Ketubot qui dit que Dieu il a fait prêter serment au peuple juif qu'on n'a pas le droit de monter Kachoma. C'est-à-dire quoi, monter Kachoma? Eh bien, nous dit Rashi, en force. On n'a pas le droit de venir conquérir en force la terre d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de venir en Israël. Ou alors, il y en a un autre qui dit qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. Cependant, dans la mesure où les nations nous ont permis de revenir, en 1917 avec la déclaration Balfour, en 1920 avec la signature de la déclaration Balfour par la SDN à San Remo, eh bien, nous dit Rabbi Meir Simcha à Cohen de Dvinsk à ce moment-là, en 1920, que dans la mesure où la peur des serments est tombée, il n'y a plus d'excuses pour revenir en Eretz Israël. Les nations nous ont permis de revenir. Et donc, de la même façon, la Alot Kachoma ne marche plus non plus, puisque ça y est, maintenant, on a la permission de. Donc, aujourd'hui, en 2022, il n'y a absolument pas d'histoire de Kachoma. Ça y est, c'est terminé. Pourquoi avons-nous besoin de leur permission? Eh bien, pour une raison très simple. Pendant 2000 ans, le peuple juif est parti en exil. Quelqu'un d'autre a géré le monde à notre place. C'est la moindre des choses, quand tu veux revenir sur l'avant-scène de l'histoire, de demander la permission à ceux qui ont fait tout le boulot pendant 2000 ans. Eh oui. Et donc, à chaque fois qu'on veut sortir d'exil, on demande la permission au chef de l'exil. Quand on a voulu sortir de chez Lavan, eh bien, il a fallu envoyer un message à Essav. Lorsqu'on a voulu sortir d'Égypte, il a fallu l'accord de Pharaon. Lorsqu'il a fallu rentrer en Eretz Israël, on a envoyé des envoyés à Melech Edom. Lorsqu'on a voulu sortir de l'exil de Babylone, il a fallu la permission de Koresh. Aaron, comme j'ai dit, comme Yaakov et Esav. Et lorsque nous avons voulu sortir d'exil dans notre génération, il a fallu l'accord de la SDN et après le vote des Nations Unies. Donc, à chaque fois qu'on veut sortir d'exil, il faut que celui qui a joué notre rôle pendant qu'on n'était pas là, ben, soit d'accord qu'on revienne. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut leur demander après à chaque pierre qu'on veut mettre sur une maison en Judée-Samarie. Ça y est, ils nous ont donné la permission, ça y est, c'est bon, terminé. Maintenant, on gère notre politique tout seul comme des grands. Mais ça y est l'air. Donc, ceux qui ne sont pas rattachés, comment ça, notre rôle ? Bah, les amis, Kadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, pas pour simplement faire notre petit Shabbat et manger notre petit couscous. Il nous a mis dans ce monde pour le Taken Olam Bemalchut Shaddai, pour corriger ce monde et pour le dévoiler au sein des nations. Eh oui, mais quand tu es en exil, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas développer ce monde, tu ne peux pas le construire, tu ne peux pas l'améliorer, puisque tu n'as pas ton mot à dire et c'est les goïms qui gèrent. Bon, ben, pendant que c'est les goïms qui gèrent, ils en ont bavé, les goïms, de construire le monde. Bien sûr que les nations aujourd'hui contestent notre droit en Judée-Samarie, c'est tout à fait normal. Toi aussi, tu le contestes. Tu ne vas pas quand même en vouloir aux nations de contester notre droit en Judée-Samarie, puisque nous, on ne l'affirme pas. Il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Si à Israël, il continue à ne pas vouloir revendiquer la Judée-Samarie et à ne pas y mettre sa souveraineté, bah, c'est normal. Ça fait 70 ans, allez, j'exerce, 50 ans, depuis 67, plus de 50 ans, 55 ans, qu'on est revenu en Judée-Samarie, on n'a toujours pas dit que c'était à nous. Bah, si on ne dit pas que c'est à nous, peut-être qu'on pense que ce n'est pas à nous. Donc si on pense que ce n'est pas à nous, bah, les goïms non plus, ils ne pensent pas que c'est à nous. Et à un moment donné, il ne faut pas toujours rejeter la pierre aux goïms. Hier, il y a eu un vote de Ukraine. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, je peux pas réagir à ça. Quoi qu'il en soit, donc, tous ceux qui se sont éloignés de cette étude-là, donc tous ceux qui se sont éloignés de cette étude-là ont pu émettre comme avis qu'on peut très bien vivre son judaïsme authentiquement ailleurs qu'en Israël. Alors que bah, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Si on veut comprendre quelle est la responsabilité du peuple juif Bagalout, eh bien, sa seule responsabilité, c'est de sortir de Galout. Et pour cela, eh bien, tu vas avoir besoin de ce Sefer qui s'appelle Sefer HaZohar. À tel point qu'il est marqué dans le Zohar, Daun Sifra be Sefer HaZohar, c'est en regardant un étudiant dans ce livre-là, Sefer HaZohar, Yitzun Israël min Galuta berachame. C'est en regardant, en étudiant ce livre, Sefer HaZohar, que sortiront les Béné Israël d'exil, Berachamim. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce livre-là nous rattache à la réalité du peuple juif avant l'exil. Et donc, toute cette Torah-là qui amène la lumière, eh bien, c'est une Torah qui m'explique comment mon authenticité ne peut être réelle que en dehors de l'exil. Ainsi, Shemaya et Avtalion, qui sont bien avant le Zohar, dans Pirkei Avot, vont nous dire Chachamim, Hizaharu bedivrechem, Shema, Tachovu, Chovat Galut. Alors, soit tu le comprends de manière littérale, Chachamim, faites attention à ce que vous dites pour ne pas partir en exil, ou alors, Chachamim, mettez le Zohar dans vos paroles. Et ainsi, vous pourrez sortir d'exil. C'est de cela dont on parle. Comment étudier le Zohar puisqu'il est en araméen ? Eh bien, il faut apprendre l'araméen. Bon, la vérité, c'est qu'il y a des traductions aujourd'hui du Zohar en hébreu. Mais comme toujours, apprendre un texte dans sa langue d'origine, c'est le plus simple. Oui, David ?
Oui, alors avant de rallumer le micro, Rav, j'en profite pour dire qu'on étudie le Zohar tous les jeudis soirs avec le Rav Yoel Ben Arouche, en araméen, en hébreu uniquement, sur Anana.
Voilà. Et je ne suis toujours pas encore venu, c'est fantastique.
Mais je vais vous amener.
Non, mais c'est ma faute plus que la tienne, hein, c'est complètement. Tom, et bien voilà, je pense que c'est l'heure de rallumer les micros. Si vous avez des questions.
Les micros sont ouverts. Hein. Comment
okay.
étudier le Zohar?
À vous de jouer.
Est-ce que le Zohar que vous étudiez le jeudi est en Zoom?
Non.
Pourquoi?
Parce que ça demande
alors,
une
étude. Tarte, okay.
Alors justement, regardez, il y a le Rav Fison qui est là. Le Rav Yoel Ben Arouch, il a décidé de ne pas faire sur Zoom parce qu'il pense qu'on peut mal comprendre l'étude Zohar et cette mal compréhension-là peut amener à des dérives. Araf, c'est quoi ces dérives-là exactement?
Ah ben, je vais vous dire, c'est très simple.
Comment
d'abord,
c'est différent?
Non, c'est très, très différent, Anita. Et tu le sais en vrai. En vrai, on a déjà eu cette discussion et on est d'accord. Tu sais très bien que l'étude Panim El Panim, ce n'est pas seulement que je peux poser une question, que en Zoom, peut-être qu'on va fermer mon micro ou tout ça. Non, Yesh Panim. A Panim, c'est Apnim. C'est que des fois, quand le Rav, il enseigne quelque chose, c'est son visage qui parle aussi. Ce n'est pas seulement ses lèvres. Ça, tu ne peux pas le voir en Zoom. En mala asot.
Même avec une... aller à Ranana pour ça.
Ah bah, en l'occurrence,
une
parce que
par le Rav
il habite à Ranana.
David.
Mais il y a à manger, était... hein.
David, il était prévu qu'il y ait un cours sur Jérusalem. C'est toujours d'actualité.
Ouais.
C'est dans deux... On essaie d'organiser ça dans 2 mois, 3 mois, si Dieu veut. On essaie, mais ça dépend beaucoup de l'emploi du temps du Rav Yoel Ben Arouch.
OK.
Rav Fison, dans quelle partie du Zohar est la Sifra de Tzniouta?
La Sifra de Tzniouta, c'est une partie du Tikkun HaZohar.
Et l'autre, Hidrazuta?
Eh bien, Hidrazuta, on a parlé déjà.
D'accord, mais elle est toute petite. Vous okay. vous avez dit que c'est toute une chélec.
Mais quel problème? Non, j'ai dit il y a des hydrotes. Il y a la Hidra Rabba, Hidra Zuta. OK, ça fait partie d'une partie qui s'appelle hydrote. Maintenant, le fait que les hydrotes, c'est moins long que Tikkun HaZohar, c'est pas grave.
Et pourquoi on dit que si on fait la Hidra, la Safra de Tsinyuta une fois par mois, c'est une grande Sgoula? Pourquoi? Parce que
personne ne
l'a traduit.
Ne me demande pas à moi ça, parce que tu sais très bien que ma réponse ne va pas te faire plaisir.
Okay,
moi, je vais te dire un truc. Ma fille, elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce qu'on a un Perek Shira à la maison? Alors, je lui ai dit, oui, il y en a un là-haut, machin. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu dis Perek Shira? Elle m'a dit, non, je ne veux pas te dire. Je ne veux pas te dire parce que je te connais, tu vas encore me dire que c'est des bêtises et tout ça, machin. Je lui ai dit, mais tu sais, moi, je dis Perek Shira tous les jours. Elle me dit, OK, mais quand même. Je lui ai dit, parce que quoi? Tu crois que tu vas le dire pendant 40 jours et que ça va t'amener un truc magique? Elle dit, ah, comment tu sais? Je dis, bah, parce que toutes les 5 secondes, on te balance une nouvelle zgoula, il faut dire Perek Shira pendant 40 jours et tout d'un coup, tu vas avoir un troisième œil qui va s'ouvrir. Non, Perek Shira, c'est fondamental. Quand on a compris qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'est que ce texte-là de David Ameller, qu'est-ce que c'est que Ichuda Havaya, qu'est-ce que c'est que l'unité de toute la création, c'est pas je lis un texte magique et pouf, il va se passer un truc. Donc quand tu me dis, viens, on lit le Sifra de Tzniouta et ça va me faire une ségoula fantastique, mais les mecs, ils comprennent pas de quoi ils parlent. C'est même pas traduit. Alors,
pas
qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Il y en a qui vont te dire, mais ça influe sur ta neshama. C'est vrai que ça influe sur ta neshama. Mais franchement, si c'est mon avis que tu demandes, je pense qu'il faut d'abord se construire dans des choses qu'on comprend avant de se lancer dans des trucs qu'on ne comprend pas qui influent sur notre neshama. Pareil pour ce qui est des Tehillim. Pareil pour ce qui est des Tehillim. J'ai dit hier dans le cours que j'ai donné chez le Rav Ben Ishay, à Shabbat, le cours que je donne à Emouna le Shabbat après-midi, vous êtes tous conviés évidemment. Ce n'est pas sur Zoom parce que le Rav, il n'a pas permis de faire le Zoom pendant Shabbat. Mais sinon, à part ça, on m'a dit, mais il faut dire des Tehillim, c'est très bien, machin. Je ne suis pas contre le fait de lire des Tehillim, mais je suis complètement contre le fait que les gens ils lisent des Tehillim et qu'ils ne se disent pas que ce serait peut-être bien, une fois au moins dans sa vie, d'étudier les Tehillim, savoir de quoi ça parle. Après, tu pourras continuer à les lire si tu veux. Mais pourquoi tu n'étudies pas? C'est un texte du Tanakh. Ça s'étudie comme tous les autres textes du Tanakh. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut. Ben, ça veut dire quoi mal comprendre? Et c'est quoi les dérives qui pourraient arriver? Eh bien, ces dérives, elles sont très simples. Les textes profonds de la Torah nous renvoient à beaucoup de paraboles, à beaucoup d'enseignements ésotériques. Et le problème, c'est que ces enseignements-là, si tu les prends détachés de leur contexte et surtout de leur relation avec le concret, alors ça te fait partir dans tous les sens.
Ouais.
Et en fait, il faut toujours avoir une connexion très profonde entre Torah Taniglé et Torah Tanistar. Et c'est ça les dérives. Parce que si tu es uniquement dans des mondes supérieurs et que tu étudies la Kabbalah Bezoum, tu ne vas pas voir qu'en fait le Rav, il est complètement attaché au Halakhot. Et c'est ça que tu as besoin de ressentir, Bepanim et Elpanim.
Ouais.
Ok ?
Merci.
Il y a Meira Malka qui a levé la main.
Oui,
non, je pensais que puisque vous dites que c'est ici qu'il y a la Torah, je comprends quand même pas pourquoi le monde, la majorité du monde haredi est en Kutz-Laretz et les grands rabbins sont en Kutz-Laretz et le Rav Moshe Feinstein, le Rabbi de Lubavitch et toutes les communautés, est-ce qu'ils ne comprennent pas?
Alors, très bonne question, mais j'aimerais changer l'énoncé de la question. Car à mon sens, votre énoncé est erroné. Aujourd'hui, le monde haredi dans sa majorité, il n'est plus en Chutz-Laaretz. Deuxièmement, aujourd'hui, les grands rabbins ne sont plus non plus en Chutz-Laaretz. Vous parliez de Reb Moshe Feinstein et du Rabbi de Lubavitch, c'était les derniers grands rabbins de Chutz-Laaretz. Il n'y en a plus des grands en Chutz-Laaretz. Dans tous les milieux, même dans le milieu haredi, les chefs de file sont en Eretz Israël. Donc, d'abord, il faut comprendre que le processus de la Géoula, ben, ça prend du temps. Donc, le processus du retour de la Torah à la maison aussi, elle a pris du temps. Et donc, quand vous me parlez des années 70 et 80, eh ben, il y avait encore une partie de la Torah qui était en Chutz-Laaretz et une partie qui était déjà revenue à la maison. Aujourd'hui, Baruch HaShem, je pense qu'il est clair et évident pour tout le monde que la Torah, elle est rentrée à la maison. Donc, ça a pris du temps. Maintenant, vous me dites, mais il y a des rabbins qui sont encore là-bas, ils ne comprennent pas. Aleph, soit ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas étudié. Et encore une fois, je répète, il y en a plein qui n'ont pas étudié ça. Par exemple, je donne un exemple très simple. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, au 19e siècle, il s'oppose au sionisme. Ce n'est pas qu'il ne vient pas, il s'y oppose. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il n'a pas étudié la Kabbalah. Il ne connaissait pas, il s'est opposé à la Kabbalah. Ben voilà, donc il s'est opposé aussi au sionisme. Ça c'est une chose. Et il y a d'autres rabbins qui ne peuvent pas, qui rêveraient de venir en Israël, mais qui ne peuvent pas. Peut-être qu'ils ont des problèmes de Parnassa, peut-être qu'ils ont des problèmes par-ci, par-là. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, Chas v'Shalom. Mais soit tu ne peux pas, soit tu n'as pas compris. Et ne venez pas me dire ne pas abandonner nos communautés en Chutz-Laaretz.
Juste avant, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, de les allumer que quand vous avez une question. Ça fait énormément de bruit. Merci beaucoup. Merci de fermer vos micros. Hana, Meira.
J'ai une question.
Non, alors, juste, il finit de répondre le Rav. Juste en attendant, éteignez vos micros parce qu'on entend des bruits de fond et c'est insupportable. Merci beaucoup.
Voilà, je terminais en disant, soit ils ne peuvent pas, et ce n'est pas à nous de juger, soit ils ne veulent pas. Et quand vous me dites, mais on ne peut pas abandonner nos communautés, les rabbins ils te disent, on ne peut pas partir, on ne peut pas abandonner la communauté, c'est faux. On peut montrer un chemin à sa communauté. Et quand il dit, mais on va abandonner les juifs à eux-mêmes et on a besoin de gens qui sont en route de la reste, rien n'empêche d'envoyer des shlichim, pas comme Chabad qui vont rester toute leur vie là-bas, mais des gens qui viennent pour quelques années pour ne pas abandonner la communauté et pour tout le temps leur montrer un chemin. Voilà, c'est une possibilité tout à fait viable. Ça se fait dans plein de communautés. Oui, il y avait des mains levées.
Oui, j'ai une question. Mon fils habite Chutz-Laaretz, à New York, pour bien le faire, et il a 43 ans. Je voudrais lui acheter un livre de Kabbalah. Quel livre je dois lui acheter?
C'est difficile de répondre parce que je ne connais pas votre fils. Je ne sais pas quel est son...
Il a créé un collège. Il est quand même assez élevé dans l'étude.
Je pense que le premier livre de Kabbalah qu'on doit commencer à étudier, si déjà, c'est le livre Sha'arei Ora de Rabbi Yosef Jukatilia. C'est le livre de base de la Kabbalah, c'est le livre avec lequel il faut commencer, à mon sens.
Sha'arei Ora, ok.
Voilà. Madame Mikou, vous aviez une question?
Oui. Et je vous remercie. J'ai une question pour la continuité entre la névoie et la Kabbalah. Et en quoi est la Kabbalah et la continuité de la névoie? J'explique la partie que je ne comprends pas, en tout cas, sur laquelle porte ma question. Et dans la névoie, l'enseignement, le contenu de la névoie, si je me réfère au contenu, il vise par exemple la justice sociale. La façon de construire une société, de bâtir une société, une communauté à Israël, en Eretz, de manière à faire la loi, à vivre la Torah en Eretz. Pourquoi les continuités entre la Kabbalah et cette
enseignement? La névoie, ce n'est pas la justice sociale. Dans la névoie, il y a des passages qui parlent de la justice sociale, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on crée une société juste. Eh bien, ces parties-là vont être continuées dans la halakha, où il y a des textes de halakha qui nous expliquent comment est-ce qu'on va faire en sorte que notre société ne soit pas inégale et barbare, et ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. La névoie, c'est le fait qu'il y a un contact clair, un lien, une relation entre le créateur et la créature. C'est ça la névoie. C'est que la vie, le lien de vie est là entre le créateur et la créature. La Kabbalah, c'est ce qui va nous rester de ce lien-là. Maintenant, des fois, ça parle de certains sujets qui sont abordés dans le Tanakh, mais ce n'est pas ça le débat. La Kabbalah, c'est comment est-ce que dans la Torah, après la prophétie, on garde une espèce de ligne qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, au dévoilement divin, à la vitalité elle-même. Donc, c'est en cela que c'est les vestiges. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Kabbalah. C'est-à-dire que ça vient mimala lemata.
Le Rav Benaroff nous enseigne que le changement est de notre côté, ce n'est pas du côté d'Akadosh Baruch Hu.
Oui.
Donc ce lien de vie, il est le même. En tout cas, si je continue ce raisonnement, si je l'ai bien compris.
Enfin, il est le même à la différence.
Ça veut dire qu'entre l'époque des prophètes et l'époque après l'exil de Rome, c'est cet exil-là, Akadosh Baruch Hu est toujours là. Son lien de vie avec l'âme Israël, il donne toujours et la lumière et la vie. Ce qui a changé, c'est que la société, la communauté, l'âme Israël est organisée maintenant d'une manière qui voile probablement cette lumière-là.
Mais Madame Mikou, il y a quelque chose de fondamental qui a changé.
Mais
Dieu
oui.
ne parle plus. Il est là, évidemment qu'il est là. Et bien sûr qu'il fait, il embrasse le monde par sa lumière, sinon le monde n'existe pas, bien sûr, mais il ne parle pas. C'est quand même un lien qui est très, très différent lorsque le papa est face à son fils. Il est là, mais il a décidé de ne pas lui parler. Bien sûr qu'il est là, bien sûr qu'il lui a préparé à manger, bien sûr qu'il l'a emmené à l'école, mais il ne lui parle plus. Le lien est fondamentalement différent.
Plus.
Pourquoi il ne parle plus? Parce que Dieu, il a décidé de ne plus nous parler. Peut-être parce qu'on ne méritait plus qu'il nous parle. Peut-être parce que « Mipne chataenu galinu ma'arzenu ». Mais le fait est que la relation qu'on a avec lui maintenant est très différente.
Alors, il reste quelques minutes, il y a d'autres questions. Peut-être approfondir
ça Gabriel.
La prochaine semaine. Gabriel.
Oui. Alors, Rav, on sait que « Kol Israël a révélé Zébazé ». Je voulais avoir votre opinion sur… la mesure de notre responsabilité envers les Juifs qui sont en Chutz La'aretz, les Juifs qui nous entourent au niveau pratique, voilà, les amis, la famille, à quel point est-ce qu'on doit être actif pour les encourager et...
Autant que tu peux.
Ok. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne sais pas, ça dépend de tes capacités. Si tu as des capacités d'orateur, alors tu leur fais des petits audios comme ça de temps en temps. Si tu as des capacités multimédia, bah, tu leur envoies des vidéos, tu leur envoies des trucs, hein, autant que tu peux pour leur faire comprendre que le plus grand danger de notre époque, c'est l'assimilation, et il n'y a pas de meilleur terreau à l'assimilation que la galoute.
Et je me permets de rebondir, à chaque fois que vous mettez un like ou que vous commentez une vidéo ou un cours du Rav Fizon, du Rav Uel, du Rav Cherki, l'homme chané de quel Rav, ça publie ça dans vos réseaux à vous. C'est-à-dire vous devenez, juste en mettant un like ou en commentant un cours, vous permettez de diffuser tout ça aussi. Voilà, c'était juste le petit moment pub. Madame Garibaldi.
Oui, alors là, je crois que j'ai un peu perdu ma question. Mais de ce que j'entends, de tout ce que j'ai entendu, ça y répond un peu. Mais bon, je vais un peu rajouter en ce qui concerne la difficulté justement des… J'ai des amis juifs qui habitent en France et qui me disent « Mais non, on ne comprend pas pourquoi on doit venir en Israël alors qu'ils étudient la Kabbalah, ils étudient plein de choses, les textes, etc. Ils ont des responsabilités. » Et ils pensent qu'il est nécessaire qu'ils restent en galoute pour justement amener cette parcelle de lumière qui risquerait de manquer au cas où ils seraient en Israël. Alors, bon, moi, c'est pas facile de…
Mais si, c'est très facile, Madame Garibaldi. Je vais vous répondre de manière très simple et très choquante. Il y a 400 ans, à peu près, un peu moins, un bonhomme qui s'appelait Shabtai Tzvi, qui avait une idée très intéressante. Il a dit « Dieu est présent partout ». C'est vrai d'ailleurs, Dieu est présent partout. Donc, il est présent partout, il est également donc présent dans les avérotes. Donc, faisons des avérotes pour le dévoiler également là-bas. C'est une erreur. On n'a pas le droit. Donc, quand vous me dites « Comment leur expliquer ?» Ils pensent que. Et si demain, moi, je pense que le cochon… Comme dit dans la pub, tout est bon dans le cochon. Et si moi, je pense demain que j'ai une idée très, très importante, que le rôle du peuple juif, c'est d'être en exil et d'amener la lumière là-bas. Et c'est très simple d'expliquer cela. On n'est pas Dieu. La Torah n'a pas été écrite par moi, mais elle a été écrite par Dieu. Et Dieu, il a dit qu'il faut venir ici. Point. Et il a dit que c'était une avéra d'être là-bas.
Donc, alors, c'est ce que je leur dis.
C'est très simple. Donc, vous pouvez dire.
Alors, ils me répondent, oui, mais ce sont les hommes qui ont écrit les textes à savoir vraiment. Voilà, c'est la réponse que j'entends. Alors là,
c'est les hommes qui ont écrit les textes à savoir vraiment.
Oui, c'est ce qui est les réponses que j'ai eues de.
Excusez-moi, pour moi, le judaïsme, c'est d'abord et avant tout la Torah qui a été révélée par Akadosh Baruch Hu. Et donc, lorsque Akadosh Baruch Hu nous envoie et nous donne la Torah, eh bien, on ne peut pas venir réinterpréter la Torah. La Torah, elle nous dit qu'il faut venir ici. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas, mais ne viens pas m'idéaliser le fait qu'on est en Chutz La'aretz. Donc, ils étudient la Kabbalah, ils étudient ce que vous voulez, bah, c'est qu'ils l'ont très mal comprise.
Ce qui m'interpelle beaucoup pour terminer, c'est une de ces personnes est carrément président d'une communauté juive. Et qu'il a
vous avez expliqué pourquoi il n'a pas envie de venir.
De grandes responsabilités, qu'il a les moyens financièrement de venir ici aussi.
Mais vous mettez dans une situation compliquée, je ne le connais pas et je n'ai pas envie de prendre, d'avoir l'air méprisant. Mais vous savez.
Que j'entends.
Non, mais il n'y a pas de problème. Mais vous savez qu'il y a plein de gens qui, justement, quand ils ont des responsabilités, justement, quand ils ont au placé. Ils savent très bien qu'en venant en Israël, ils perdront toutes leurs responsabilités et toute leur kavod et toute leur place. Et donc, on n'a pas forcément envie de venir. Les amis, à un moment donné, exactement, je ne voulais pas le dire, mais Rebecca nous dit, c'est exactement la faute des explorateurs qui avaient tous des hauts postes dans le désert. Et ils savaient que, d'ailleurs, c'est le Sefer Zohar qui nous explique ça, qu'ils savaient qu'en rentrant en Israël, ils ne seraient plus les chefs de tribu. Donc, ils ont dit, il vaut peut-être mieux ne pas rentrer en Israël. Nous, ça s'appelle de l'hypocrisie, la méhadrine. Mais bon.
C'est une question d'ego. Hein.
Arabe, bisons. Okay, merci. Arabe.